Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Il faut savoir que le 27 août 1920, la première transmission radio est effectuée dans notre pays. À l'occasion, RAE, l'Argentine vers le monde, présente une QSL électronique spéciale en commémoration des 100 ans de cette émission historique. Dans la conception de la QSL, vous pouvez voir une image de la Spica, un modèle très populaire de récepteur radio à transistor portable reconnu par des générations d'Argentins. Pour recevoir cette EQSL, vous devez envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Maintenant, place à l'actualité. La fondation argentine WEPED, présidée par l'expert en maladies infectieuses Pedro Can, a annoncé cette semaine qu'elle avait commencé le recrutement de personnes qui veulent participer à l'étude de phase 3 d'un des vaccins candidats contre le coronavirus développé en Chine et basé sur un virus inactivé. Le deuxième essai clinique à être lancé en Argentine pour des composés en phase finale avant l'approbation. Can est l'un des principaux conseillers présidentiels sur la gestion de la pandémie en Argentine. Le docteur a expliqué que l'étude vise à inclure 3000 volontaires pour un vaccin de virus inactivé, ce qui le rend totalement sans risque. Il a décrit que les vaccins inactivés utilisent une version morte du germe et il existe d'autres exemples de ce type de vaccin, tels que la grippe, l'hépatite A, la polio et la rage, de sorte que nous savons déjà qu'il est impossible de contracter la maladie à partir du vaccin, ce qui implique une approche traditionnelle. Il s'agit du vaccin développé par China National Biotech Group, affilié au China National Pharmaceutical Group, en collaboration avec Beijing Institute of Biological Products. L'étude sera aléatoire. Le fait de recevoir le vaccin ou le placebo dépendra du hasard. À double insu, ni le volontaire ni l'équipe d'investigation ne savent s'ils ont reçu le vaccin ou le placebo, contrôlé avec placebo, une substance inerte, en groupe parallèle pour évaluer la capacité à activer le système immunitaire et la sécurité. L'Institut français d'Argentine fait partie du réseau des instituts français qui comprend actuellement 96 établissements dans le monde. Sous l'autorité de l'ambassadrice de France en Argentine, il a pour mission principale de promouvoir la culture française dans un processus d'ouverture et de dialogue constant avec ses partenaires locaux. C'est un instrument de coopération et d'influence ainsi qu'un pôle d'expertise et de conseil. Son directeur est également conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Le développement des relations franco-argentines dans les domaines universitaires, scientifiques et culturels, dont les grandes lignes ont été inscrites dans l'accord de coopération signé en 1964 à l'occasion de la visite du président de la République française de l'époque, Charles de Gaulle, est au cœur de l'action de l'Institut français d'Argentine. Ces dernières semaines, l'Institut français d'Argentine a participé de différents lancements de cycles littéraires et de collections de livres, notamment la présentation de 12 livres scientifiques et une collection d'œuvres de théâtre français traduits à l'espagnol. L'Institut français d'Argentine présente le cycle « Littérature scientifique à la française » qui propose 12 livres sur la science, dans lequel des scientifiques argentins de renom invitent à entrer dans le monde des auteurs français qui les ont marqués ou captivés. Denise Schiamarella, docteur en sciences physiques et qui dirige aussi l'orchestre féminin Schiamarella Tango, dont le thème Belgique nous accompagne comme musique de fond, présente le livre « L'ordre dans le chaos » co-écrit par Pierre Berger, Yves Pommeau et Christian Vidal.
Je m'appelle Denise Schiamarella, je suis scientifique au CNRS et directrice adjointe de l'Institut franco-argentin d'études sur le climat et ses impacts. À la demande de l'Institut français d'Argentine, j'ai participé récemment du cycle « Literatura scientifica a la francesa ». Et pour ce cycle, j'ai choisi le livre intitulé « L'ordre dans le chaos ». Les auteurs de ce livre sont Pierre Berger, Yves Pommeau et Christian Vidal. Je me suis formée avec le second lorsque j'étais boursière à l'École normale supérieure à Paris. Ce livre traite d'un sujet fascinant qui a marqué une révolution dans la science. Comment peut-il y avoir de l'ordre dans le désordre? Eh bien, un météorologue du nom d'Edouard Lorenz a découvert en 1963 quelque chose de très curieux. Il est possible de connaître parfaitement la loi qui régit un phénomène et pourtant de ne pas pouvoir faire de prédictions. Autrement dit, là où la science peut expliquer, et voilà donc l'ordre, elle ne peut pas toujours prédire, et voilà donc le chaos. Il existe de nombreux livres sur la théorie du chaos, mais, comme indiqué par David Ruel dans la préface, celui-ci était le premier qui s'attache à décrire les phénomènes tels qu'ils apparaissent dans la réalité expérimentale, sans se perdre dans les détails mathématiques. À mon avis, c'est un livre qui s'inscrit dans la meilleure tradition française, car il se sert de l'intuition et de la beauté, comme dans l'art.
Tinta Frescas rassemble les œuvres des meilleurs dramaturges contemporains de France, traduits en espagnol et sélectionnés par l'acteur et metteur en scène français Michel Didin, avec un groupe de professionnels du théâtre et de l'édition. Une collection à laquelle s'ajoutent 5 nouveaux titres, lancés par les Libros del Sorsal en collaboration avec l'Institut français d'Argentine. Faustine Noguez, née à Toulouse, est l'auteur, la metteuse en scène et la dramaturge de Surprise Partie et de Les Essentiels, qui ont été traduits en espagnol par Yer Cohn. Faustine, qui coordonne également des ateliers d'écriture et de jeux avec des enfants et des adultes, nous parle de son œuvre et de l'importance d'atteindre un nouveau public.
Je m'appelle Faustine Noguès, je suis autrice et metteuse en scène et je vis en France, à Paris. Ce livre regroupe 2 pièces de théâtre que j'ai écrites. Surprise Partie, qui est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Jón Gnarr, qui a été élu maire de Reykjavik, la capitale de l'Islande, en 2010, et qui n'était pas du tout un homme politique, mais un humoriste punk, qui a créé un parti satirique avec un groupe d'artistes anarcho-surréalistes. Et ils ont été élus alors que c'était vraiment une blague au départ. Et le deuxième texte, c'est Les Essentiels. Là, c'est l'histoire d'un accident dans un abattoir de vaches. Et une des employées de l'abattoir est retrouvée morte sur la chaîne de découpe. Et donc, c'est l'occasion pour les employés de se questionner sur leurs conditions de travail. Et ils décident de faire une grève parce qu'ils pensent que les conditions de travail sont les causes de cet accident. Seulement, ils n'ont jamais fait de grève et ils ont très peur de se faire renvoyer. Donc, ils inventent une grève à leur façon, une grève très originale, une grève comme personne n'en a jamais fait. Dans les 2 pièces, on trouve un thème qui m'intéresse particulièrement et qui est le rapport à la parole et surtout la confrontation entre la parole institutionnelle, officielle, politique et la parole beaucoup plus populaire, beaucoup plus proche des gens. Dans Surprise Party, par exemple, on voit des amateurs entrer dans les sphères du pouvoir. Et ce que j'ai fait pour le monde politique dans Surprise Party, c'est que j'ai inventé des personnages politiques qui coexistent avec d'autres personnages, les personnages punk, qui eux sont inspirés de personnes qui existent dans la réalité. Et ces personnages politiques doivent s'exprimer publiquement selon un ensemble de règles rhétoriques que j'ai inventées et qui rend cette parole politique poétique. Donc c'est une façon de traiter la parole politique et le jargon. Et donc on voit les personnages, les punks, les artistes s'emparer des codes de cette parole-là pour la tourner en dérision, pour en montrer l'absurdité et pour finalement s'insérer dans les sphères du pouvoir. Dans les essentiels, il y a également plusieurs niveaux de parole, puisqu'on a d'abord la parole des ouvriers de l'abattoir, donc qui est assez orale, assez populaire. Ensuite, on a le personnage de la directrice de l'abattoir, qui, elle, voilà, fait des grandes études de commerce et déjà parle avec un peu plus de jargon. Et on a aussi un autre personnage qui est le personnage du possesseur, qui en fait est une sorte d'actionnaire majoritaire que personne n'a jamais vu et dont on entend seulement la voix comme ça de façon magique sur le plateau, un peu comme un dieu. Et donc lui s'exprime seulement en anglais et de la même façon que dans Surprise Party, pour lui parler, il faut adopter certains codes rhétoriques très précis. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui m'importe et je trouve que le théâtre est le bon endroit pour faire entendre ces niveaux de parole et montrer à quel point le fait de détenir la parole, c'est lié au fait de détenir le pouvoir. Ce qui m'intéresse également et qu'on peut retrouver dans ces deux pièces, c'est la question de qui est le plus à même d'exercer le pouvoir et est-ce que finalement ce ne sont pas les personnes qui ont le moins envie de l'exercer. Et notamment dans Surprise Party, on trouve toute une réflexion sur le punk en opposition à l'institution. Donc le punk comme quelque chose qui doit rester éphémère, qui ne peut pas s'installer, qui ne peut pas être carriériste et en opposition à l'institution qui finalement fige les choses et les sépare de la vie. Et Jon Gnarr, c'est un personnage très intéressant pour aborder cette thématique puisque c'est une personne qui ne se laisse pas transformer par le pouvoir. Quand il est élu à la mairie, il annonce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire de politique mais que maintenant que les gens l'ont élu, il est bien obligé de s'y mettre. Mais il annonce tout de suite qu'il ne se représentera pas et qu'il fera qu'un seul mandat. Et à la fin de son mandat, qui a été très positif, il a redressé l'économie de la ville qui était dans un état proche de la faillite. Donc il est donné favori par les sondages et il refuse de se représenter, il tient parole. Donc c'est vraiment une vraie figure punk qui ne se laisse pas happer par le pouvoir, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages de la pièce. Je suis très heureuse que ces deux pièces soient traduites en espagnol et publiées en Argentine. D'abord pour des raisons très personnelles, la traduction en espagnol me touche beaucoup parce que je suis d'origine espagnole. Mes grands-parents sont venus en France pour fuir le franquisme et quand ils sont arrivés en France, c'était très important pour eux que leurs enfants apprennent, grâce à l'école française, un français très officiel, très institutionnel, très correct parce qu'eux-mêmes venaient d'un milieu très populaire en Espagne et que leur espagnol était très marqué par cette appartenance sociale. Et moi, on m'a très peu transmis l'espagnol, précisément parce qu'il y avait une volonté d'oublier l'espagnol et avec l'espagnol, les origines sociales. Donc finalement, aujourd'hui, avec la parution de ce livre en espagnol, c'est un peu comme si la boucle était bouclée. Ensuite, si j'écris du théâtre, c'est justement pour créer des liens et des connexions avec d'autres personnes, d'autres pays, d'autres territoire, puisque le théâtre c'est toujours un appel à un metteur en scène ou une metteuse en scène, des comédiens, des comédiennes, des interprètes de tous horizons. Donc la traduction et la publication dans un autre pays, c'est toujours des frontières qui s'abolissent, des limites qui disparaissent et ça c'est totalement réjouissant pour moi. Et après plus précisément sur l'Argentine, il y a une tradition de théâtre, en tout cas telle que je l'aperçois depuis la France qui me réjouit particulièrement, et notamment cet aspect festif que je ressens, notamment dans le rapport au public, qui est finalement assez différent de ce qu'on vit en France. Et j'ai l'impression que la situation du théâtre en Argentine n'est peut-être pas très simple économiquement, mais qu'il y a quelque chose de très foisonnant, de très passionné, de très vivant et de très festif qui m'attire beaucoup. Et donc, je suis vraiment très heureuse de participer un petit peu à ça grâce à ces deux pièces, et j'espère que ça permettra encore plus de liens avec ce pays, des artistes de ce pays, des acteurs culturels argentins. Dans les deux pièces, il y a une crise, puisque dans Surprise Partie, on est dans un contexte de grave crise économique en 2010, 2 ans après le krach boursier qui a été une vraie catastrophe en Islande. Et dans Les Essentiels, la mort sur un lieu de travail d'une employée de l'abattoir. Mais dans les deux cas, la crise est traitée avec toujours une touche d'humour et de rire. Et c'est très important pour moi d'amener du rire et de créer des situations dans lesquelles il y a un petit peu de surréalisme et un petit peu de dérision, parce que je trouve que ça permet de prendre du recul, de regarder les choses de façon un petit peu distanciée et de mieux les voir finalement.
Un autre livre traduit à l'espagnol dans la collection Tinta Frescas est Betraven et Georges Caplan de Frédéric Sontag, dramaturge, directeur de théâtre et acteur né à Nancy. Écoutons-le.
Bonjour, je suis Frédéric Sontag, je suis auteur et metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Asanissimassa, qui est un nom un petit peu étrange, énigmatique, qui vient du film 8 et demi de Fellini. Je suis l'auteur d'une quinzaine de pièces, tout d'abord. Voilà, j'écris du théâtre depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc j'ai écrit à peu près une quinzaine de pièces que je mets en scène moi-même. Voilà, je monte principalement mes propres textes. Ce sont pas des écritures qui viennent du plateau. J'écris vraiment ces pièces-là que après, dans un deuxième temps, je mets en scène avec mon équipe qui m'accompagne depuis un certain temps. Voilà, j'ai écrit, donc je disais, une quinzaine de pièces, dont ce que j'appelle la trilogie fantôme, qui est composée de Georges Caplan, Benjamin Walter et Betraven, qui est pour moi une œuvre importante parce qu'elle synthétise un certain nombre de problématiques et de formes narratives sur lesquelles je travaille. Ces trois pièces-là donc forment cette trilogie, et à l'intérieur de cette trilogie, Betraven et Georges Caplan sont aujourd'hui traduits et publiés en Argentine dans la collection Tintas Frescas aux éditions Libros del Zorzal. Dire un mot peut-être de cette trilogie, particulièrement de Betraven et de Georges Caplan. Donc ce sont trois pièces qui fonctionnent sur un principe commun, qui est de présenter, de questionner une identité fantomatique. On ne va pas dire un personnage fantomatique, on va même parler d'une identité, d'un nom, peut-être tout part d'un nom. Ce nom est mystérieux, ce nom est énigmatique, et on va partir dans le cas de chacune de ces pièces un peu à l'aventure. On va enquêter à chaque fois sur le mystère qui se cache derrière ce nom. Ces trois pièces traitent d'un certain nombre de sujets qui ont des résonances, on va dire, communes. On va dire que ces trois pièces parlent chacune, ou apportent en tout cas une réflexion sur la dimension à la fois politique et même peut-être poétique de l'anonymat, sur la naissance et la circulation des récits et des mythes, particulièrement au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et sur les formes de lutte et de résistance à ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte de triomphe généralisé et mondial de la société de consommation et du spectacle. Alors voilà, il y a d'autres points communs entre ces formes-là. Elles proposent des narrations aussi et des dramaturgies, on va dire, déstructurées d'une certaine manière. Ce ne sont pas des formes de narration totalement linéaires. Plusieurs récits s'enchevêtrent. On nous raconte souvent plusieurs histoires qui vont en fait n'en tisser qu'une seule. J'aime bien travailler sur une forme de polyphonie narrative qui me permet de traduire une certaine complexité d'une réalité qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, Georges Caplan et Betraven, qui sont les deux pièces traduites et éditées aujourd'hui en Argentine, se dialoguent peut-être particulièrement l'une avec l'autre. Ce sont à la fois des... Alors Georges Caplan, c'est le fameux nom d'emprunt qui est utilisé dans La mort aux trousses, dans le film d'Hitchcock North by Northwest. cette identité mystérieuse, ce masque qui va être utilisé. Et de l'autre côté, on a un autre masque qui est Betraven, qui est aussi un nom d'emprunt, un pseudonyme d'un écrivain qui va écrire des œuvres, un certain nombre de romans, entre 1924 et 1940 notamment, particulièrement. Et c'est donc un pseudonyme, un nom d'emprunt d'un homme qui aura au cours de sa vie utilisé une trentaine de pseudonymes et d'identités différentes. Alors à la fois pour se cacher, pour préserver son identité, qui est quelque chose peut-être de plus en plus difficile à préserver à l'heure actuelle, pour préserver son être, oui, son être, pour préserver son être au monde. Et pour ça, il utilise un masque tout simplement, et Georges Caplan aussi est un masque, c'est une pièce sur les masques qui a beaucoup à voir avec le théâtre de fait. Alors pourquoi on utilise des masques, pourquoi on met un masque, pourquoi on en ressent le besoin? Dans les deux cas, ça va être pour pouvoir porter une parole. On a besoin de se cacher, donc c'est pas uniquement se cacher pour se dérober d'une réalité, pour essayer de la fuir. Ça va être dans un premier temps, oui, un geste de fuite, mais un geste de fuite pour pouvoir mieux porter une parole. J'ai poétique, mais politique, les mots se ressemblent. Et donc ce sont des masques qu'on utilise et qui sont, d'une certaine manière, et c'est dit un peu dans chaque pièce, qui sont des armes. Voilà. Je suis très heureux de cette actualité en Argentine. J'étais venu il y a 10 ans à Buenos Aires dans le cadre d'un festival de dramaturgie européenne où était présentée une de mes premières pièces qui s'appelle Intrusion. Je garde un souvenir très fort de la rencontre avec ce pays, avec la ville de Buenos Aires où j'avais été principalement, avec les acteurs et les metteurs en scène que j'avais rencontrés là-bas. C'était déjà il y a 10 ans, je pensais revenir beaucoup plus tôt. Et puis finalement, la vie en a décidé autrement, je n'y suis pas retourné. J'espère en avoir très prochainement l'occasion, j'espère qu'on pourra bientôt de nouveau voyager. Oui, cette édition, c'est l'occasion de pouvoir, d'abord que mes textes et mes pièces, mes textes découvrent des lecteurs. Avant tout, le théâtre, c'est une littérature, je le défends comme tel, comme une forme littéraire, donc ça se lit. Même s'il y a peut-être peu de gens qui lisent du théâtre, il y a peu de lecteurs de théâtre, il est vrai, mais c'est une forme littéraire. Et c'est important qu'on puisse encore, malgré tout, éditer du théâtre. C'est de plus en plus difficile. C'est important que les pièces puissent être éditées, puissent être lues, parce que c'est de la littérature. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, on espère que ça permet aux textes, et c'est sans doute le meilleur moyen d'ailleurs, à ce que les textes puissent circuler, puissent découvrir, dans le sens où ils puissent, à ce moment-là, dans cette circulation, découvrir des metteurs en scène, peut-être, qui vont pouvoir les monter. C'est le meilleur moyen, notamment dans d'autres pays, de faire connaître ces textes, qu'ils circulent, et que peut-être, oui, voilà, je l'espère, en Argentine, en tout cas, ils puissent découvrir des metteurs en scène qui auraient envie de monter ces pièces.
Terminé, retour à Schiamarella Tango avec Mimi Bohème.
Soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de la población. Soy la que al paisano muy de madrugada brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Oh, Mimi, que j'aime ton cœur de bohème, voudrais-je briser dans notre baiser. chambrette, tu t'es ma chambrette, ma Mimi bohème. Mimi, quand tu t'en iras, je ne te retiendrai pas. On ne peut garder en cage l'oiseau volage comme la fleur meringue. Faute de soin et d'amour, mon cœur périt. Chambrette.